On ne peut avancer sur ce sujet-là parce que, premier point, nous parlons de cette table d'expertise indépendante. Les autres vous disent, expertise indépendante, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'experts indépendants. Et vos experts à vous ne sont pas indépendants puisqu'en fait, ils ont un parti pris. Alors je crois que la première réponse à cela consiste à dire, peut-être, c'est vrai que l'indépendance, personne, ni vous, ni moi, ni personne autour de cette table, nous sommes indépendants, nous avons notre culture, nos convictions, notre histoire, et donc nous ne sommes pas indépendants. Mais, en revanche, on sait très bien ce qu'est un expert dépendant. Étienne Sandrier l'a décrit tout à l'heure. Un expert dépendant est un monsieur qui dépend financièrement de celui qui a commandé l'étude. Donc, si nous acceptons de définir l'expert indépendant comme celui qui n'est pas dépendant, je crois que déjà on a progressé sur ce dont nous parlons. Deuxième point, la question des conflits d'intérêts. Même lorsque vous n'êtes pas directement en cause pour une étude qui vous a été commandée par un opérateur ou un industriel quel qu'il soit, le fait que vous ayez une habitude de travail avec lui peut créer un risque de conflit d'intérêts. Par conséquent, comment gère-t-on ce problème-là? Et ce, dans un pays où la recherche publique est si misérable que le nôtre, hein, et où par conséquent on finit par ne plus trouver d'experts indépendants au sens auquel je viens de le définir, parce que un expert c'est avant tout quelqu'un qui a de la compétence. La compétence technique, scientifique, elle s'acquiert pas seulement à l'université, elle s'acquiert aussi après. Si vous avez des gens qui, parce qu'ils s'intéressent à des sujets comme celui-là, n'ont pas le droit d'avoir de labos de recherche, n'ont pas le droit d'avoir d'argent, n'ont pas le droit de faire des recherches, effectivement, ils ne vont plus avoir cette compétence technique-là. Et donc, on est dans un système qui conduit inexorablement à se priver d'experts indépendants, parce que précisément, la société ne tolère pas, tout au moins ceux qui dirigent la société, ne tolèrent pas qu'il existe cette catégorie de gens qui vont poser les bonnes questions. J'en aurais terminé en disant que parfois, et c'est justice, c'est la morale, cela se retourne contre les instigateurs de ce type de comportement. Et nous en avons aujourd'hui un excellent exemple avec ce qu'on appelle l'écotoxicologie, qui n'est pas le sujet dont nous parlons là, mais qui est un sujet très intéressant, puisque l'écotoxicologie est une science qui consiste à s'intéresser à la toxicologie des produits. La France a détruit, depuis 25 ans, de manière systématique, l'écotoxicologie. C'est-à-dire que les professeurs n'ont plus d'argent, plus de doctorants, plus de thésards, plus de chefs de, plus de chargés de conférences et de chargés de travaux dirigés, plus d'étudiants. Donc, effectivement, personne pour poser les questions qui fâchent, sauf un certain nombre de messieurs proches de la retraite dont on se dit qu'il n'y en a plus pour longtemps. Arrive le règlement REACH. Le règlement REACH qui va imposer, enfin nous l'espérons tous, mais c'est pas encore fini, qui va imposer que soit évaluée la toxicité d'un très grand nombre de produits chimiques. La France a désormais un intérêt économique à avoir des écotoxicologues, parce qu'il va y avoir bien entendu une guerre économique autour des produits, donc un intérêt économique à ce qu'il y ait des écotoxicologues français. Pas de bol, il n'y en a plus. Bien. Par conséquent, tout d'un coup, on redécouvre la nécessité de former des écotoxicologues. Le problème, c'est que ça ne se fait pas en soufflant dessus, que quand on a détruit volontairement, tout gouvernement confondu, pendant des années, toute une branche scientifique, eh bien, il faut la reconstruire, il y en a pour 20 ans. Voilà, donc je crois que cette vision court-termiste, permanente, de ces problèmes-là, finit parfois par avoir des effets pervers en termes économiques, et je pense que ça devrait inciter à la réflexion, y compris sur des sujets comme celui dont nous parlons aujourd'hui.
Michel Rivasi ?
Oui, moi je voulais essayer de schématiser un peu ce qu'il dit. Tout à l'heure, je vous parlais de cocktail. Donc, le cocktail, en l'occurrence, je vous parlais des lobbies. Il y a souvent des experts alibi, c'est-à-dire qu'on prend quelques individus. Alors, c'est assez marrant parce qu'il y a une espèce de collusion entre le rayonnement électromagnétique et le rayonnement ionisant. Et c'est un peu les mêmes qui sont dans les deux.
Les mêmes experts ?
Ouais. Il y a des experts qui sont à la confluence, disons. Et puis, on fait souvent des sociétés écrans. On l'a vu pour l'amiante. Eh bien, il y a une société écran qui s'est montée, qui s'appelle la société Santé et Radiofréquence, qui est une fondation. Et lorsqu'on a regardé de près, il y a un conseil d'administration, il y a 15 membres. Dans les 15, il y en a 5, ce sont les opérateurs. Les autres 5 membres, ce sont des personnes nommées par les différents ministères. Et puis, il y a 5 experts, choisis par les deux. Donc, ce qui fait que là, il n'y a absolument pas de mouvement associatif. Donc, vous voyez, tout à l'heure, lorsque vous disiez, mais quand même, c'est assez bétonné, il y a l'OMS, il y a la commission, etc. Mais si, dans le domaine de la radioactivité, ça a été vraiment très bien démontré, l'OMS n'a pas de marge de manœuvre. Vous savez que, en ce qui touche la radioactivité, c'est l'Agence internationale d'énergie atomique qui établit la norme et l'OMS avalise, en quelque sorte. Bon, et bien là, c'est un peu la même chose. Et donc, vous voyez le problème qui se pose. Ensuite, comme c'est assez bétonné sur l'aspect montrable aux gens, et comme les gens se disent « Ah, mais l'OMS, ça fait sérieux, la Commission, ça fait sérieux, donc ça doit être sérieux. » Mais quand on regarde de près, c'est toujours les mêmes qui sont là. Alors, qu'est-ce qui... Au niveau des gens qui nous écoutent, ils doivent se dire « Mais comment faire pour réagir ?» Eh bien, c'est les lanceurs d'alerte. C'est ces gens qui osent dire « Attention, il y a un risque. Attention, il y a un risque, on demande plus d'études. » Mais on demande à ce que ces études soient crédibles, avec des gens, justement, où il y a une certaine déontologie. Et puis, il y a tous les contre-pouvoirs. Parce que regardez ce qui se passe en France depuis 86. Il y a eu la CRIRAN, il y a eu le CRIGEN, il y a eu le CNIN pour les déchets et les incinérateurs. Maintenant, il y a le CRIREN. Vous voyez que de plus en plus, face à ce monde hyper bétonné, on se dit il faut le soutien des gens. Et il faut que les gens soutiennent ces contre-pouvoirs. Puisque de toute façon, si on ne réagit pas, si on ne forme pas nos propres experts, eh bien, on n'aura qu'un son de cloche. Et après, c'est au niveau des médias que ça va jouer. Parce que quand les médias vont vouloir faire remonter justement la demande citoyenne, eh bien, on va être attaqué, comme ça a été le cas d'Étienne Cendrier, où il a été attaqué en diffamation par les opérateurs.
Conjointement avec le journaliste qu'il avait interviewé. Alors justement, Étienne Cendrier, il me semble que ce qui apparaît dans les interventions et de Corinne Lepage et de Michel Rivasi, c'est cette nécessité de créer une expertise en dehors de l'expertise, je dirais, conventionnelle. Alors, Corinne Lepage disait « ça ne se fait pas en un jour », on vous a entendu parler de manière quand même très érudite des rayonnements électromagnétiques. Vous n'êtes pas un scientifique. Absolument à la base, pas. Vous vous êtes formé. Exactement. Sur le terrain. Alors, la question, c'est évidemment quel poids à votre parole face à celle des experts, et peut-être, je vous suggère un début de réponse, c'est sur, puisqu'on a beaucoup parlé de l'établissement des normes, de l'établissement des doses, des seuils, etc., c'est surtout la question des mesures, par exemple, puisque une fois qu'une norme est établie, une fois qu'une dose est décidée, bon, plus ou moins de manière pérenne et plus ou moins de manière consensuelle, ensuite, il faut faire un certain nombre de mesures pour s'assurer que ces normes ont été respectées.
Absolument. Alors, notre poids, il est considérable puisqu'en fait, on représente tout simplement la société civile. On correspond à ce qui s'appelle en Suisse les citoyens informés, c'est-à-dire qu'on est en position d'analyste, ni plus ni moins, puisque on se rend compte, et ça commence toujours comme ça, par ce qu'on peut appeler les coutures du dossier, ou les symptômes dont parlait Michel Rivasi tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a des gens qui se plaignent, il y a des experts qui sont, comme ça, apparemment unanimes pour dire aucun souci, et puis des pouvoirs publics laxistes. Quand on a ça, on a les symptômes d'un problème sanitaire. On pourrait quasiment les repérer comme ça. Et puis, il y a quelques éléments lourds quand même. Il y a des gens qui sont pas très connus pour leur philanthropie et qui sont tout à fait impartiaux, on va dire, dans le sujet, qui sont les assurances. Les principales compagnies de réassurance mondiale, comme la Swiss Re ou la Lloyd's, n'assurent plus, ni ne réassurent les compagnies de téléphonie mobile en responsabilité civile pour tous les risques sanitaires liés aux émissions de champs électromagnétiques. Au motif que s'il y a des procès et qu'il y a des indemnisations, ça pourra leur casser les reins financièrement. Donc c'est assez considérable. Muni de ces différentes informations, ben on se plonge dans le dossier et on commence à se rendre compte qu'il y a des gens qui parlent une langue. On apprend la langue pour pouvoir aider les gens, puisque nous, on va dans tous les débats où on nous demande de venir, et on traduit aux gens ce qu'il leur est dit, et on retraduit ce que disent les gens aux opérateurs ou aux scientifiques. Moyennant quoi, on assure en fait la transmission, et on amène surtout la vérité sur la façon dont le dossier a été traité depuis le début, puisque on met à jour tous les mensonges qui sont là. Et on se rend compte que, et c'est très intéressant, que bien qu'on ait des normes énormes, il y a ce problème sur les mesures. C'est-à-dire que c'est comme si les opérateurs se rendaient compte qu'il y a un vrai souci pour la santé, puisque eux-mêmes par l'intermédiaire de bureaux de contrôle qui sont dits indépendants. Alors, je fais attention, je me suis fait poursuivre en justice là-dessus. Les bureaux de contrôle sont indépendants et payés par les opérateurs. Comprenne qui voudra. Et ces gens-là trouvent toujours des mesures extrêmement faibles. C'est comme si on ne voulait pas inquiéter les gens et comme si on voulait dire que de toute façon, tout ce qu'on trouve est négligeable. Or, quand il y a des mesures qui sont faites au contradictoire ou qu'on vient avec le CRIREM ou encore avant avec certains des scientifiques qui...
Alors, expliquez peut-être en un mot ce que c'est que des mesures au contradictoire.
Au contradictoire, c'est les bureaux de contrôle indépendants payés par les opérateurs. Et les bureaux de contrôle, par exemple du CRIREM ou de scientifiques indépendants payés par personne, qui eux viennent et font des mesures, on les fait en même temps, on se rend compte que quand les bureaux de contrôle indépendants payés par les opérateurs sont venus, on trouve des niveaux très faibles. Quand il y a des mesures contradictoires, on s'accorde sur le niveau, mais c'est souvent plus élevé. Et autre chose qui nous paraît extrêmement bizarre, c'est que les bureaux de contrôle indépendants payés par les opérateurs trouvent des niveaux de mesure, par exemple, je prends un exemple, à 0,3, à 0,01, à 0,0, etc., etc. Or, le niveau de détection de leurs appareils est de 0,3. Et ils arrivent à trouver des valeurs en dessous du seuil de détection. Pour que tout le monde comprenne bien, on a des balances qui commencent à 10 kilos, et ils nous trouvent des poids à 30 grammes, à 3 grammes, à 300 grammes, à 352 grammes. On est en plein délire et on n'a absolument aucune rigueur scientifique sur ces mesures.